Nous allons lire dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. À partir du verset 26. Marc chapitre 4, verset 26. Marc 4, 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc c'est le Seigneur qui compare le royaume de Dieu, donc le travail de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, le commandement de Dieu, l'action de Dieu, le travail de Dieu. Il dit, quand Dieu travaille, c'est comme une personne qui a semé. Donc, Dieu utilise les hommes et les hommes vont semer. Il a dit, c'est comparable à une personne qui sème. Et quand cette personne sème, que cette personne veille nuit et jour ou qu'elle dorme, c'est écrit, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc en réalité, pour voir le fruit, le paramètre qui est important là, c'est le temps. Donc la personne a semé et il a fallu du temps, un certain temps pour voir le fruit. Et aujourd'hui, nous voulons parler du temps. Le temps est un paramètre dont on doit tenir compte dans le travail de Dieu, dans le fonctionnement de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à cette personne qui sème. Qu'elle veille, qu'elle continue à arroser, qu'elle n'arrose pas. Qu'elle fasse de la musique à la plante, qu'elle ne fasse pas de la musique. Qu'elle dorme ou qu'elle reste éveillée. Il y a un travail qui se fait en fonction du temps. Donc cet homme, en quelque sorte, n'a qu'à attendre. Il attend et un jour il voit le fruit. C'est important de considérer le temps dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Le temps est important. Et là où le diable, l'un des endroits où il tient le plus les chrétiens, où il arrive à les perturber, à les freiner, c'est leur enlever la notion du temps. Et ils tombent donc dans l'impatience et ils font des bêtises. Il faut savoir accepter la notion du temps dans le travail de Dieu. Et c'est ainsi que quand Jésus était dans le désert, le diable lui a proposé, il lui a proposé d'être roi, de faire de lui un roi et de lui donner tout. Mais Jésus savait que ce temps arrivera où il sera vraiment roi, il sera clairement roi et que tout lui appartiendra. Et Jésus a dit, je préfère attendre ce temps-là. Et le diable, il piège beaucoup d'enfants de Dieu en leur proposant quelque chose maintenant pour les amener à désobéir à Dieu. Donc, prends la chose maintenant. Or, Dieu veut qu'on attende son temps en lui. Et parfois, cette attente est considérée comme une sorte de défaite. Parce qu'entre-temps, les gens parlent. Entre-temps, on souffre. Entre-temps, parfois, on n'a pas de réponse. Et on se dit, mais où est Dieu ? Et le diable profite de ça pour dire, mais voilà ce chemin que tu as pris de servir Dieu, ce chemin que tu as pris d'être patient, d'être obéissant. Ce n'est pas un chemin qui donne des résultats. Soit concret, soit pragmatique, soit pratique. Fais ceci, fais cela. Allez à l'initiative. Et c'est comme ça que beaucoup sont sortis. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu laisser le temps faire son travail. Il est écrit dans Galates 4, 4. Galates 4, 4. On se souvient de Saül qui a perdu sa royauté comme ça. On lui dit d'attendre 7 jours. En plus, il a attendu 7 jours. Il a attendu 7 jours. Il restait juste quelques heures pour que les 7 jours soient vraiment consommés. Mais avant que ces heures-là passent, il restait que quelques heures. Hein. Mais avant ces quelques heures-là, vous voyez comment le diable peut être fort dans sa pression. Tu attends 7 jours. Mais il reste quelques heures. On peut se dire, mais j'ai déjà fait l'essentiel, le plus important. J'ai attendu 7 jours. Mais non, on va l'avoir pour quelques heures. Il n'a pas su attendre quelques heures pour que Samuel vienne faire le sacrifice et que Dieu le bénisse et bénisse tout le pays. Pourquoi il n'a pas pu attendre? Sous pression. Il y a la pression qui vient, qui veut que tu réagisses à l'instant. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, il ne faut jamais travailler avec Dieu dans la logique de la réaction. On te fait ceci, tu réagis. Là, tu tombes dans l'erreur de Saül. Il voit que les gens s'en vont. Les soldats s'en vont. Ça fait une grosse pression. Vous vous imaginez, vous êtes général d'armée. Vous êtes le chef des armées. Vous devez remporter la bataille. Mais finalement, les soldats commencent à rentrer chez eux. Il se dit, mais on va perdre la bataille. Mais il faut se poser la question. J'attendais pourquoi? J'attendais dans l'obéissance à Dieu. Dieu m'avait dit d'attendre 7 jours. Quand tu te poses cette question, tu te dis, ah, c'est vrai. Dieu est toujours là. Il existe, le soleil, les étoiles sont là. J'attends encore. Mais quand tu oublies de te poser la question, mais avant, pourquoi tu étais patient avant? Pourquoi tu attendais? Pourquoi tu as prié? Si tu avais prié, si tu avais été consolé ou fortifié, par une prédication, par une parole de Dieu. Mais est-ce que ce Dieu-là a changé? Il n'a pas changé. Il est toujours là. Quand on se souvient de ça, on revient à la raison. Mais quand le diable va faire qu'on ne se souvienne plus de pourquoi nous attendions, il va seulement nous mettre la défaite devant les yeux. Tu es en train de perdre. Ça ne marche pas. Il va seulement nous montrer que ça fait longtemps que ça ne marche pas. Ou bien il va nous montrer que le danger est tout proche. Il faut que tu réagisses. N'attends pas Dieu. Le temps, c'est important. C'est écrit dans Galates chapitre 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Bien-aimés, entre nous et Dieu, qui a le plus d'amour dans son cœur? C'est Dieu. Entre nous et Dieu, qui est le plus gêné, embêté, en colère à cause du péché? C'est Dieu. Mais malgré sa colère à cause du péché, malgré son amour pour les humains, lui-même a dû attendre un certain temps pour que son Fils vienne. Ça veut dire que Dieu a souffert lui-même. En quelque sorte, Dieu a été frappé par le temps, à cause pas de lui, mais à cause des humains et de l'univers. Tel que Dieu a fait des choses, le temps a son importance. Même Dieu n'a pas négligé le temps. Il n'a pas envoyé Jésus au temps d'Abraham. Il n'a pas envoyé Jésus au temps de Moïse. Il a envoyé Jésus au bon moment, quand les temps furent accomplis. Une de notre force doit venir de quoi? Entre autres, c'est de notre capacité à laisser le temps passer. C'est très important, bien-aimé. Vous savez, ce n'est pas facile d'être chrétien comme ça, d'avoir l'impression que c'est nous les derniers. Parce que quand on regarde les présidents, les stars de football, vous imaginez juste un tweet, c'est-à-dire une phrase que un grand joueur de football va mettre sur Internet pour parler par exemple d'Adidas ou pour parler d'une voiture, d'une marque de voiture. Une phrase comme ça, parfois, rapporte 20 000 euros. Juste une phrase qu'il va mettre sur Internet. Mais quand nous voyons tout ça, on a l'impression que nous sommes les derniers. Même pour servir Dieu, il nous manque parfois de l'argent. Et le diable dit, mais vous perdez du temps. Le diable dit, mais où est votre victoire? Où est votre force? C'est pourquoi nous avons besoin d'accepter l'élément temps. On a besoin d'accepter cet élément-là. Et comme c'est dit d'Abraham, même en mourant sur terre, il n'a pas vu ce qu'il attendait, mais il l'a vu dans le ciel. Donc Abraham attendait le temps où il ira au ciel pour vivre ce qu'on lui avait promis. C'est une question de temps. Attention que le diable ne nous fasse pas négliger le temps pour nous rendre pressés, réactifs. Restons calmes. C'est écrit dans Ésaïe 30:15. C'est dans le calme et la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que vous aurez le salut. C'est dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance que vous allez avoir la victoire. Mais on nous titille, on nous presse. Et même si les hommes parfois ne le font pas, mais nos propres yeux nous titillent, nos propres yeux nous dérangent, nos propres yeux nous pressent, nos yeux voient bien que les païens, ils se targuent d'être les plus forts, les plus beaux, les plus riches. Nos yeux voient bien que ceux qui sont contre Dieu sont majoritaires. Nos yeux voient ça. Il suffit que chacun de nous voit là où il travaille, il va se rendre compte qu'il est hyper minoritaire. Peut-être qu'il peut y avoir encore deux ou trois personnes, mais ça suffit. Tout le reste est anti-Dieu. Et quand on voit tout ça, on se dit, mais est-ce que Dieu est vraiment fort? Est-ce qu'il va agir vraiment? Quand on voit parfois nos situations dans la famille, on se dit, mais est-ce que dans ma famille, Dieu va vraiment agir? Quand on voit nos projets, certains projets, on se pose des questions. Le Seigneur veut nous rappeler que le royaume des cieux est comparable à quelque chose qu'on a semé il y a un temps. Et ce qui est beau dans ce rappel, c'est que on nous demande juste d'attendre. On ne nous demande pas de nous agiter, de faire ceci ou cela. On nous demande d'attendre. Maintenant, nous allons voir comment attendre. Mais l'idée qui est là, c'est que Dieu va agir. Comme il a dit dans Ézéchiel, je vais agir à cause de mon nom. Dans Ézéchiel chapitre 20, il dit à Ézéchiel, quand je vais agir, je vais donner la victoire aux enfants d'Israël, ce n'est pas par rapport à eux, c'est parce que mon nom est sur eux. Et nous qui portons le nom du Seigneur, nous devons comprendre que son nom étant sur nous, lorsque nous sommes humiliés par nos yeux, humiliés par la situation des païens qui semble florissante, lorsque nous sommes humiliés dans le sens où nous ne voyons pas le bout du tunnel par rapport à certains problèmes que nous pouvons avoir, sachant que c'est le nom du Seigneur qui est humilié et le Seigneur défendra son nom. Il nous demande de tenir compte du temps. Le temps est un paramètre dans notre fonctionnement avec Dieu. Un jour, c'est écrit dans le livre de Malachie, on verra la différence entre ceux qui prient en vérité et ceux qui ne prient pas en vérité. Mais entre-temps, ça peut être confus. Entre-temps, ça peut être difficile à voir. Je lisais hier un article, ou avant-hier un article sur dans un site qui parlait d'une secte. Mais quand je voyais les vidéos de cette secte, j'avais l'impression que tout marchait, ça faisait, cette secte existe depuis plus de 100 ans. Les choses fonctionnent, ça grandit, il y a des gens, on n'a qu'à prendre l'islam et d'autres mouvements. Parfois ça grandit, il y a des gens. Je me disais, Seigneur, mais ces gens-là sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Nous aussi, on est convaincus. Mais comment maintenant, parce qu'ils sont convaincus, comme d'ailleurs parce qu'il y en a qui meurent dans ça. Ils meurent dans le mensonge. Mais nous aussi, on est convaincus que ce qu'on fait est vrai. Mais qui va trancher? Une des réponses que j'ai reçues, c'est le temps, bien-aimé. Le temps va trancher. Le Seigneur dit, laissez l'ivraie et le blé pousser ensemble. Quand on va arriver à la fin, les anges viendront moissonner. Ça, c'est encore une autre parabole dans Matthieu 13 qui nous parle de la semence et de la logique du temps. Parce que quand les anges sont venus furieux dire au maître, mais oui, mais il y a l'ivraie qui a été semée, on va l'arracher. Le maître a dit, attention, vous risquez d'arracher aussi le blé en même temps. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Certains de nos exaucements que nous attendons, si on les a avant le temps, ça va produire de la destruction en même temps. Ça va produire de la destruction, mais nous, on ne le sait pas. Mais c'est parce qu'on les a eus avant le temps. Dis attention, n'arrachez pas avant que ça pousse. Attendez. Le Seigneur, vous savez, quand on lit la parole, on voit souvent, il dit, même aux anges, attendez. Il y a des gens d'Apocalypse à la fin qui disent, Seigneur, viens nous venger. Il doit leur dire, mais attendez encore. Dans 2 Pierre 3, l'apôtre Paul dit quoi? Dieu ne tarde pas, mais il faut que le temps fasse son travail. Dans le travail du temps, il y a des gens qui doivent encore être sauvés. Vous le voyez peut-être pas encore là, mais Dieu, lui, le voit. Il laisse le temps faire le temps passer. Il faut que le temps fasse son travail. C'est Dieu qui fait, mais c'est une façon de parler. Il faut que le temps fasse son travail. Mais on ne supporte pas ça. Et le diable est là pour nous mettre la pression. Par rapport à la vie familiale, par rapport à beaucoup de choses, on veut obtenir les choses rapidement. On veut obtenir certains changements rapidement. Ce n'est pas mauvais puisque Dieu est tout puissant. Mais n'oublions pas que le salut vient de Dieu et que Dieu, dans la constitution humaine et de l'univers, a donné un rôle au temps. Le temps joue. Le temps joue dans le changement de certaines choses. Certaines choses, voilà, ont besoin du temps pour changer. Je ne sais pas comment tout cela se passe. Parce que dans notre imaginaire, on s'est dit, Dieu n'a qu'à faire ça et tout change. Mais si Dieu qui est tout puissant ne le fait pas, c'est qu'il y a des raisons. Et nous voyons que lui-même, il le subit, ce temps-là. Parce que il pouvait envoyer son fils depuis longtemps, mais il a attendu. Quand les temps furent accomplis. Et dans Apocalypse 14, 12, il nous est dit ceci. Après avoir parlé des jugements qui tombent sur les humains, pourquoi nous serons préservés? Parce que les textes qui précèdent ce que je vais lire, ça parle du jugement des adorateurs de la bête. Mais nous, nous serons persévérés, nous serons sauvés. Pourquoi? C'est écrit dans Apocalypse 12, 14, 12. Je vais commencer au verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Voilà, ce verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est une façon de dire, voilà en quel moment les saints font la différence. Ils font la différence par leur persévérance à garder le commandement de Jésus et la foi de Jésus. C'est ça qui va faire la différence. C'est la capacité à attendre. C'est ça qui va faire la différence entre un chrétien et un autre. Il y en a qui lâcheront comme Saül parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Ils n'ont pas voulu accepter le rôle du temps. Ils ont voulu les choses rapidement. Et ceux qui triompheront, ce sont ceux qui auraient persévéré dans les commandements du Seigneur et dans la foi en Jésus-Christ. Le temps est important, bien-aimé. Le monde devient de plus en plus hostile à Dieu et nous semblons comme dans la défaite. Ce n'est qu'une apparence. Dieu promet un temps où, comme c'est écrit dans Apocalypse 3, 8, les gens de la synagogue du diable, les gens qui sont dans la fausse religion, reconnaîtront que ceux qui sont de Jésus, véritablement, Dieu les a aimés. Il y a un temps où tout cela va se faire. Dieu nous demande de la persévérance. Il nous demande d'attendre. Par rapport à certaines attentes terrestres, il nous demande d'attendre. Il nous demande de persévérer. Dans Luc 18, 1 à 8, il y a une dame qui priait. Le Seigneur a donné l'exemple d'une dame qui réclamait justice auprès d'un juge mauvais. Cette femme a continué à le faire malgré le fait que le juge refusait de l'écouter. Mais il est dit que, bien qu'il soit mauvais, ce juge a cédé parce que cette femme a persévéré. Elle a eu confiance qu'elle avait raison et que ce juge fera son boulot de juge, alors que c'était un mauvais juge. Alors, on nous parle maintenant de Dieu. Comment Dieu peut-il rester insensible à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Comment peut-il rester insensible? C'est ce que le Seigneur dit dans Luc 18. Mais quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Vous avez constaté, là, on parle du temps, on parle de la foi et de prière jour et nuit. Dans Apocalypse 14, il est question de la persévérance des saints, ceux qui gardent le commandement de Jésus et la foi de Jésus. On nous dit déjà comment attendre. On a vu que Sarah n'a pas voulu attendre. Et elle a fait une erreur qui a produit la souffrance de beaucoup de personnes. Parce qu'elle n'a pas voulu attendre. J'ai lu le texte dernièrement et j'ai été choqué de voir que l'ange a été choqué. L'ange qui disait, et c'était peut-être Dieu lui-même, il a dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri? Quand on a dit qu'elle va avoir un enfant, elle a ri. Mais pourquoi elle a ri? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'étonnant que Dieu puisse faire? Que Dieu ne puisse faire? Dieu nous dit, bien-aimés, il n'y a rien d'étonnant qu'il ne puisse faire. Nous devons demeurer dans la foi. Nous devons prier. C'est l'état dans lequel Dieu nous attend. Parce que dans la prière, nous sommes soutenus par lui. Nous sommes fortifiés. Nous sommes comme dans une bulle. C'est-à-dire, nous voyons bien la souffrance autour de nous. Nous voyons le non-exaucement autour de nous. Mais dans la bulle du Seigneur, nous sommes quand même heureux, malgré tout. Nous avons besoin d'être réinstallés dans la foi. C'est en priant qu'on est réinstallés dans la foi. C'est en réclamant les promesses du Seigneur. C'est en discutant avec lui. C'est là qu'il nous apaise. C'est là qu'il nous calme. David, quand nous lisons les psaumes, nous nous rendons compte qu'il avait tout le temps des ennemis, tout le temps des difficultés. Mais les psaumes, en même temps, sont remplis d'espoir. Donc c'est en chantant comme ça, en priant Dieu, que le Seigneur l'apaisait, lui donnait la force, la paix, malgré tout ce qui était autour de lui. Et les cœurs des saints, le cœur des enfants de Dieu, sont tourmentés aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour. Même dans les milieux chrétiens, les gens sont tourmentés de voir, je parle des vrais, les vrais sont tourmentés de voir toutes sortes d'abus, de la légèreté. J'étais dans un site très intéressant dans les sujets abordés. Puis à un moment, c'est écrit salon de coiffure et puis on met les prix de coupe. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment dans un site qui parle si bien de Dieu, après un endroit réservé, c'est écrit détente. Et quand vous allez dans cet endroit de détente, il y a le salon de coiffure. Il y a encore d'autres choses, j'ai oublié même. J'ai dit, mais comment un site qui veut bien, qui parle si bien de Dieu. Et quand on voit toute cette légèreté-là, on souffre. Puisque ces gens-là ont pignon sur rue, et ils sont convaincus qu'ils font le bien. Mais le Seigneur dit qu'il faut qu'on attende. Il faut qu'on soit patient. Et qu'on apprenne à ne pas agir dans la logique de la réaction, mais à agir par l'Esprit Saint. Et à agir parce qu'on est conduit par Dieu. Et à agir en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais ne pas se précipiter. Le diable veut créer la précipitation dans nos actions afin qu'on regrette plus tard. Mais nous, nous devons rester calmes. C'est dans le calme et la confiance, le repos et la tranquillité. C'est important, bien-aimé. Il y a trop de choses injustes autour de nous. Nous avons besoin de rester calmes. Et on ne peut obtenir ce calme que dans la prière, que dans la lecture des promesses de Dieu, que dans la lecture de la parole de Dieu, en regardant les gens qui nous ont précédés, comment ils ont vécu, quelles ont été leurs difficultés. Quand on regarde quelqu'un comme Joseph, qui avait de grandes promesses sur sa vie, passé environ 20 ans dans la galère, passa d'un trou à l'esclavage, puis à la prison. Mais un jour, le Seigneur a mis fin à tout ça. Il a mis fin à tout ça. Un jour, le Seigneur va se lever. Un jour. Mais il va se lever dans la vie de tous ceux qui l'attendent fermement. Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints. Ceux qui attendent fermement le Seigneur. Mais ils ne peuvent pas attendre fermement s'ils ne parlent pas au Seigneur. Parce que c'est des humains. Ils sont fatigués. Ils souffrent. Donc ils sont obligés de discuter avec le Seigneur. De dire, mais jusqu'à quand? Bien-aimés, les gens qui sont au ciel manifestent une certaine impatience. Quand on voit dans Apocalypse, les saints qui sont au ciel, ils disent, mais jusqu'à quand, Seigneur? Quand est-ce que tu vengeras le sang de nos frères? Ce n'est pas facile. Alors pour surmonter, pour tenir, il y a la prière. Aller dans le lieu très saint, discuter avec Dieu. parler avec Dieu, ressasser la parole de Dieu. C'est ce qui nous permet d'attendre le jour de la délivrance, le jour où Dieu va se lever pour montrer réellement qui est de lui, qui n'est pas de lui. Le jour où il va se lever pour dire, c'est toi que j'ai choisi et je m'occuperai de toi. C'est moi qui t'ai envoyé dans tel endroit, je m'occuperai de toi. Il faut qu'on accepte d'attendre. Dieu est fidèle. Il ne manque jamais à ses promesses. Vous savez, Jésus a dû attendre 3 jours. 3 jours, il était trimballé. Presque 2 jours plus tôt, sans dormir. Depuis Gethsémané, il était là. Il savait que son heure allait venir. Mais avant que son heure vienne, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Mais il s'est dit, ah, Seigneur, mon Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe? Jésus voyait là, bien-aimé, pour nous c'est 2 jours, mais pour lui c'était infini le temps. C'était long. Les gens qui le tapent, qui crachent sur lui. Il dit, mais délivre-toi toi-même. Il a trouvé la force où? Il a trouvé la force dans la prière. Pendant qu'il priait, il y a des gouttes de sang qui sont tombées sur lui. Des gouttes de sang. La sueur s'est transformée en sang. Il est écrit qu'il y a un ange qui est venu le fortifier. Si le Fils de Dieu a dû prier pour trouver la force, comprenons bien aimé que pour patienter ici sur terre, nous devons prier. Trouver la force auprès du Seigneur. Nous devons être près de lui. Et c'est là qu'un ange est venu le fortifier. Quand l'ange l'a fortifié, il a pu démarrer maintenant. Il a dit, c'est bon, on y va. Il a démarré. Mais il a dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Bien-aimé, quand on dit prière, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de parler pendant un temps. Non, la prière, c'est parler avec Dieu dans la logique que lui-même a posée dans sa parole. Donc, tu parles avec lui dans la logique que lui a posée dans sa parole. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui avaient décidé de jeûner jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul? Ils priaient et jeûnaient jusqu'à ce que Dieu leur donne la faveur de tuer Paul. C'est pour nous dire quoi? On peut prier et jeûner, mais sans pour autant que ce soit la vraie prière. La vraie prière est un ensemble. Les gens qui ont fait des vraies prières ont vu l'exaucement. Daniel, il voyait que le temps était long. Ça commençait à devenir long de la captivité à Babylone. Il a pris les livres, il a pris les écritures, il s'est rendu compte que Jérémie avait prophétisé que ça tiendra 70 ans la captivité. Alors il a commencé à prier, parce que le temps approchait, il a dit, mais là, il faut que je me mette en prière. Bien-aimé, pendant qu'on attend, on prie pour dire, Seigneur, nous t'attendons, parce que le Seigneur agira auprès de ceux qui l'attendent. On prie pour dire, Seigneur, nous t'attendons. Tu nous as promis, bien-aimé. C'est une façon pour nous de manifester que nous croyons en ce qu'il dit. Il n'y a rien d'agréable pour Dieu que manifester qu'on croit en lui. Que les gens manifestent ça, c'est ça qui le rend heureux. Il aime qu'on croit en lui. Et donc, quand on attend, on prie dans la logique de sa parole, c'est une façon de dire, ce que tu as dit, moi j'y crois. C'est pourquoi je t'attends. C'est pourquoi je t'attends. Daniel a prié ainsi. Et ils ont été libérés. On doit, quand on dit prière, c'est dans la logique de la parole de Dieu.
Parce que beaucoup disent qu'ils prient, mais ce n'est pas dans la logique de la parole de Dieu. C'est dans la logique bouddhiste de répéter des choses, dire beaucoup de choses. Non, il faut prier dans la logique de la parole de Dieu. Et dans ces prières, il va y avoir la repentance pour nous-mêmes. Il ne va pas y avoir la condamnation des autres, mais la repentance pour nous-mêmes. L'appel au pardon de Dieu, afin qu'aucun obstacle ne l'empêche d'agir dans nos vies. Et quand nous sortons de ce temps-là, nous sommes fortifiés, capables d'attendre encore, pendant que les événements sont négatifs. Le Seigneur veut qu'on tienne compte du temps. La terre est encore difficile. Très difficile même, mais nous y sommes. Et l'apôtre Paul dit, attention, cherchez un endroit où il n'y a aucun mal sur terre. C'est une façon de dire, on ne veut plus être sur terre. Mais si c'est la volonté de Dieu qu'on y soit, nous devons patienter. Vous savez, le Seigneur, lui, l'a patienté 33 ans. 33 ans être là, vivre avec les humains. À un moment, il a dit, mais quand est-ce que je serai encore avec vous? C'était difficile même pour le Seigneur. Mais il a attendu. Vous savez, beaucoup de choses, on peut les arranger si on sait attendre. Vous savez, il y a des gens qui ont laissé cours à la colère et ils ont fait des actes qu'ils ont regretté après, parce qu'ils n'ont pas voulu attendre l'action de Dieu. Apprenons que Dieu est tout-puissant et que nous n'avons pas besoin de le presser ou de l'agiter. Il n'a personne comme conseiller. Il agit en son temps. C'est à nous d'apprendre à fonctionner dans le temps. C'est à nous d'apprendre à prier. C'est à nous d'apprendre à réclamer sa force, la foi à travers la prière. Mais ne pensons pas que Dieu puisse commencer à travailler sans le temps. Non, le temps est une réalité sur terre. Pas au ciel, mais sur terre, c'est une réalité. Et Dieu fait avec ça. Souvent, nous calculons aussi en fonction de la logique humaine du temps. On se dit, mais un tel a eu sa maison à 35 ans. Un tel a eu sa maison à 25 ans. Moi, j'ai 55 ans. Quand est-ce que j'aurai... Voilà, on est toujours dans une logique humaine du temps. Et c'est ce qui nous empêche de comprendre Dieu. Nous devons être dans la logique de Dieu. C'est pourquoi on a dit la prière, ce n'est pas la prière, parler, blablabla. C'est vraiment être dans la logique de Dieu. Être un avec lui. Échanger des choses dans sa logique. Et là, tout va devenir clair. La maman de Samuel, elle avait prié pendant un temps pour avoir un enfant. Est-ce qu'elle a eu? Elle n'a pas eu. Ce n'est que dès qu'elle est entrée dans la logique de Dieu en disant « Je te le donnerai cet enfant », tout s'est ouvert. Mais vous voyez, quand Dieu donne en son temps, c'est une grande bénédiction. On a vu comment Samuel a été une grande bénédiction pour nous et pour Israël. Parce que les choses se sont passées dans le temps de Dieu et dans la logique de Dieu. Et parfois, le temps s'allonge parce que nous ne sommes pas toujours dans la logique de Dieu. Dieu veut qu'on entre dans sa logique. On verra que le temps va s'écourter. Et pendant qu'on n'entre pas dans la logique de Dieu, le temps s'allonge. Mais je n'ai pas dit que quand le temps s'allonge, forcément on n'est pas dans la logique de Dieu. On peut être dans la logique de Dieu, mais il y a des paramètres qui imposent que le temps passe d'abord. Il y a des paramètres. On n'est pas seul sur la terre. Et nous devons accepter que Dieu, connaissant tous les paramètres, parfois retarde les choses parce que
quand il va agir sur nous, il va y avoir une influence autour de nous. Donc il ne traîne pas. Il sait ce qu'il fait. Et lui-même nous a montré l'exemple. Tous nos prédécesseurs nous ont montré l'exemple. Abraham reçoit la promesse à 80 ans et reçoit l'enfant à 100 ans. 20 ans d'écart. Pourquoi? Dieu le sait. Mais il a su attendre et il a vu la gloire de Dieu. On a vu Joseph, Moïse. Moïse était impulsif. Il voit qu'on menace un juif. Il frappe l'Égyptien. Deux juifs se bagarrent. Il intervient. Dieu a voulu apprendre à Moïse à respecter le temps de Dieu. Il a fait fuir dans le désert et il a passé 40 ans. Vous imaginez 40 ans. Toi qui as le souci de libérer ton peuple, tu attends 40 ans et il va là-bas à 80 ans. Alors que, vous savez, quand lui il partait, il était fort physiquement. Il a, en frappant juste un Égyptien, l'Égyptien est mort. Fort physiquement. Maintenant, on t'envoie quand tu n'as pas les mêmes forces qu'avant. Et libérer comment? Avec un bâton. Mais pour cela, il fallait une préparation. Dieu nous prépare. Acceptons le temps de préparation. Ne croyons pas que Dieu se trompe. Il nous prépare. Ne soyons pas pressés. Est-ce que Moïse, dans son impulsivité, il a sauvé le peuple? Non. Mais quand il est revenu de 40 ans de désert, qu'est-ce qu'on dit de Moïse dans la Bible? C'était l'homme le plus patient. L'homme le plus patient. Il a compris à agir. Il a compris qu'il fallait agir dans le temps de Dieu. Et ça ne sert à rien de réagir. Vous savez, le contraire de la patience, c'est la réaction. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est impatient, ça veut dire qu'il ne va pas agir au bon moment, il va agir trop vite. Donc il va réagir en fonction des situations. C'est le manque de patience. Il va réagir trop vite. Mais quelqu'un de patient ne réagit pas. Il attend que Dieu le fasse bouger. Voilà. Mais tout autour de lui et en lui-même, tout crie. Mais vas-y, agis. Ne te laisse pas faire. Fais. Mais quelqu'un qui est de Dieu, il sait que s'il fait par lui-même, il va échouer. Autant que Dieu fasse par lui. C'est tout, bien-aimé. Ce n'est pas un manque de foi. C'est un enseignement. Tu comprends que Dieu fonctionne avec le temps. Sur terre, en tout cas. C'est comme ça. Et que l'homme est un être complexe dans lequel le changement demande du temps. On ne sait pas comment. C'est comme ça. Mais Dieu n'est pas loin. Il est dans son action. Ce n'est pas que Dieu a fait pause. Son action travaille. Il y a un chant en anglais qui dit « His truth is marching on ». Donc sa vérité est en train d'avancer. Sa parole est en train d'avancer. Ce n'est pas pour nous, c'est comme si sa parole a fait pause. Son action a fait pause. En réalité, ça avance, mais le temps est important. C'est tout. Ça a son importance. Il y a 7 personnes qui ont été condamnées à mort. Après, à la fin d'une guerre, ils avaient été arrêtés comme prisonniers. Et avant leur mort, il y a la maman d'un de ces prisonniers qui l'avait visité et qui lui avait chanté un chant de salut en Jésus, qui lui a parlé du Seigneur. Il a une fois de plus résisté dans sa prison, mais la veille, 2 jours avant la condamnation, l'exécution, il a été
visité par le Seigneur. Il s'est humilié. Jésus lui disait, je t'attends là où je suis. Il a confessé ses péchés. Et cet après-midi-là, dans la cour, non, pas dans la cour, là où ils attendaient, il y avait des gardiens, des soldats ennemis qui les gardaient. Lui, il a commencé à chanter le chant du salut. Mais ce chant-là, il a entendu ça seulement quand sa mère a chanté. Mais c'est resté gravé en lui. J'ai oublié les paroles du chant, mais ça disait que Jésus-Christ, il nous a sauvés et il nous attend au ciel. Le Seigneur dit dans Jean 14, je veux vous préparer la place au ciel. Bien-aimé, c'est une question de temps. Toi, tu veux la place sur terre ou bien la place au ciel? Nous sommes pressés parce que nous voulons la place sur terre. Si nous voulons vraiment la place au ciel, soyons patients. Attendons. Et cet homme a commencé à chanter. Et ses amis prisonniers ont dit, mais tu es devenu fou, qui t'a appris ce chant-là? Il leur a expliqué la visite de sa maman. Il a expliqué maintenant comment Jésus l'a visité. Et quelques heures après, ses amis prisonniers étaient convertis. Et pendant toute la nuit, il disait toujours, j'ai oublié son nom, réchante-nous le chant-là. Ils ont chanté encore. Les gardiens qui les gardaient se sont convertis en même temps. Et le matin, quand on venait les exécuter, leur dernière demande c'était, est-ce que monsieur vous pouvez laisser le bien-aimé chanter? On a dit, on vous autorise. Est-ce qu'on peut être, on peut mourir les yeux ouverts, qu'on ne nous bande pas les yeux et les mains levées au ciel? On vous autorise. Ils ont levé les mains au ciel et ils chantaient ce chant qui disait « Jésus nous attend pour aller le retrouver ». Bien-aimés, ils ont attendu 2 jours, sachant qu'ils allaient être tués le lendemain, mais ils ont attendu 2 jours dans la joie parce qu'ils priaient. Ils se rappelaient les promesses. Ils se rappelaient qu'il y a une place qui les attend au ciel. Bien-aimés, nous devons fonctionner aussi dans cet esprit-là. Tu manques une maison, tu manques une voiture, tu manques je ne sais quoi. Dis-toi bien qu'il y a une place qui t'attend aussi au ciel. Nous ne devons pas insister pour être en paix. Il faut qu'on ait les choses de la terre. On peut aussi dire, il y a une place qui m'attend au ciel où il n'y aura pas ces choses-là. Au ciel, j'aurai des frères et sœurs avec qui je ne veux pas me disputer. On ne doit pas vouloir tout régler sur terre, bien-aimés. Il y a une attente. Ces hommes-là n'ont pas demandé à ce que l'exécution soit ajournée, soit annulée. Ils n'ont pas demandé ça. Ils ont demandé juste de tenir. C'est fort. Ils ont demandé juste de tenir jusqu'à l'exécution. Nous, on veut que tout change ici, mais la terre n'est pas un paradis. C'est un temps de passage. Demandons au Seigneur de tenir jusqu'à l'heure finale. Tout n'est pas à régler sur terre. Ce n'est pas un appel à ne pas prier pour demander des choses. Mais c'est un appel à prendre conscience qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour qu'on le retrouve là-bas au ciel. Là, on ne priera même plus. Tout sera là devant nous. Comme on chante, on ne marchera plus par la foi, mais selon la vue. Tout sera clair. Il n'y aura plus de tentation, plus d'obstacles. Ces gens-là ont prié pour tenir jusqu'au moment de l'exécution. Ils n'ont pas demandé l'annulation. Je sais qu'avec les prédications de notre époque, beaucoup allaient demander l'annulation de l'exécution. Mais eux, ils savaient que ce n'était pas la logique de Dieu. Dieu leur avait donné un chant qui faisait comprendre qu'il les attendait au ciel. Pourquoi eux, ils vont demander l'annulation? C'est ça, prier véritablement. Tu pries dans la logique de Dieu. Tu ne pries pas selon ta logique. Tu pries selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 6, 18. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est par l'Esprit qu'on prie. Il ne s'agit pas seulement de parler, c'est par l'Esprit. L'Esprit nous communique l'intérieur de Dieu et ça nous permet de prier selon cet intérieur de Dieu. Et nous nous sentons libérés, nous nous sentons exaucés, nous avançons. Nous sommes forts, plus que vainqueurs. Nous devons tenir compte du temps. Et pendant que le temps coule, Nous devons savoir qu'il y aura des moqueries. Il y aura notre raisonnement qui va agir contre nous. Les gens nous diront, sois réaliste. Mais vaut mieux le temps de Dieu que le temps des hommes. Vaut mieux le temps de Dieu. Quand le Seigneur viendra, les choses changeront. Mais déjà sur terre, il nous promet qu'il interviendra. Siméon n'a pas vu le Seigneur au ciel, sur terre déjà. Il est dit de Siméon, il attendait la consolation d'Israël. Dieu pouvait consoler Siméon de plusieurs manières. Mais il a eu la consolation suprême, c'est de voir le Messie lui-même. Dieu pouvait faire voir Bartimée de plusieurs manières. Les apôtres aussi ont fait des miracles. Mais Bartimée a eu la consolation suprême, c'est de voir le Sauveur. Vous savez le chant qu'on chante, « Ouvre mes yeux que je vois la gloire du roi. » En fait, c'est un chant qui est fait dans l'idée de Bartimée. Quand il voulait voir, c'était beaucoup plus pour voir, ça c'est notre supposition, beaucoup plus pour voir le roi lui-même que pour voir tout simplement. C'est ça être dans la logique de Dieu. Fils de David, est-ce que je peux te voir un instant? Jésus a dit, d'accord, tu peux me voir. Les yeux se sont ouverts. Qu'est-ce que nous cherchons? À voir le Seigneur? Ou à voir les choses de ce monde, les voitures, les bijoux, les je ne sais pas quoi? Le succès humain? Choisissons de voir le Seigneur. Dans tout ce qu'on fait, on dit, Seigneur, je veux te voir. Ouvre mes yeux, comme David dit dans le psaume 119, que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Nous avons besoin de cela pour patienter. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Jésus et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance. C'est ça qui fait la différence. Ils attendent. Ils attendent le jour de l'action de Dieu. Alors que celui qui est charnel ou celui qui n'est pas en Christ ne va pas attendre. Il va faire des choses, il va agir, il va s'agiter. Mais il est écrit, c'est ici la persévérance des saints. Ceux qui savent laisser Dieu faire. Toi, tu fais ta part. Tu te repens, tu t'humilies devant Dieu. Tu pries. Tu pries dans la logique de la parole de Dieu. Tu pries dans la logique de l'Esprit de Dieu. Tu restes dans la bulle de Dieu, dans les souffrances de la terre, dans les oppositions de la terre, et tu attends la délivrance du Seigneur. C'est écrit dans Ésaïe 35. Ésaïe 35. J'ai l'habitude de lire ce passage. Ésaïe 35, c'est le passage qui fait que Jésus a utilisé pour dire qu'il était le Messie. C'est ce passage et le passage d'Ésaïe 61. Donc dans ce passage, il est clairement dit ce que le Messie va faire, parce qu'on dit que Dieu lui-même viendra. Donc le Messie, c'est Dieu lui-même qui vient. Et Jésus, quand Jean-Baptiste a dit, mais est-ce que c'est bien toi qu'on attendait? Jésus dit, a fait des miracles, a dit, allez leur dire, les aveugles voient, les lépreux sont guéris, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà, c'est la promesse du Messie d'Ésaïe 35. C'est écrit, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Un jour, le Seigneur va se manifester, que ce soit sur terre. Mais si tu n'es pas satisfait sur terre, le Seigneur se manifestera, tu le rejoindras au ciel. Marc 4:22 nous dit ceci. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Souvent, parfois, on est piégé par le temps parce qu'on veut vite que Dieu démontre qu'on a raison, qu'un tel a tort. Mais la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Attendons seulement le jour où Dieu dévoilera. Comme il a dit par rapport à la parabole de l'ivraie, laissons le temps. Que personne ne nous entraîne dans des polémiques de justification. Que personne ne nous entraîne dans les polémiques pour dire c'est nous les évangéliques, c'est nous tels, c'est notre église qui a raison, ceci, cela. Non. Celui qui a vraiment raison, laisse Dieu démontrer qu'il a raison. Il ne se défend pas tout seul. Puisqu'il a raison dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui démontrera ça. Et parfois, ça peut prendre du temps. Une fois de plus, laissons Dieu travailler dans le temps, puisque c'est une contrainte terrestre. C'est ainsi. Et en attendant, soyons dans sa bulle, dans la foi, la prière, l'attente de la réalisation de ses promesses, la restauration de ses promesses dans nos cœurs, la prière par l'Esprit de Dieu, et nous pourrons faire face. Nous pourrons attendre jusqu'à voir notre délivrance claire sur terre. Et comme les amis de Daniel ont dit, sinon on ne changera pas, on reste avec notre Dieu. Parce qu'on sait, malgré tout, que sur terre on soit éliminé comme ces soldats-là ont été tués. Ou d'autres encore, les Jérémie, les Esaïe ont été tués. On sait que notre Dieu, la délivrance, la vengeance, lui-même, un jour, mettra fin à nos souffrances. C'est pourquoi c'est écrit dans Apocalypse 21:4, il essuiera nos larmes. Il n'y aura plus de défaite apparente, il n'y aura plus d'infériorité. Nous serons glorieux avec lui, en train de régner avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, à ne pas nous précipiter, à être des gens calmes, laissant le Seigneur faire lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre, Seigneur, ôte de nous toute forme de précipitation. Seigneur, que nous ne soyons pas pressés d'obtenir les choses. Ça ne dit pas que nous ne désirions pas, mais que nous ne soyons pas que nous ne cédions pas face à la pression pour obtenir les choses, pour obtenir la justice, mais que nous te laissions agir, Seigneur. Et en attendant, garde-nous dans la prière, Seigneur, comme Enoch a marché avec toi, Seigneur. Garde-nous dans l'humilité, dans la repentance, et garde-nous dans la foi. Car c'est à cause de cette foi que tu défendras ton nom, tu glorifieras ton nom parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, change nos cœurs, que nous adoptions la vision des choses célestes, la vision biblique, et non la logique de tout vouloir résoudre sur terre alors que la terre n'est pas un paradis. Le paradis est avec toi, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, pour la confiance en toi que tu renouvelles en nous. Nous savons que pour toutes les choses qui ne sont pas à notre goût, tu es au contrôle quand même. Et nous n'allons pas nous précipiter pour les biens de la terre, pour les activités de la terre, que ce soit les mariages ou autre chose, que ce soit les réussites financières ou autre chose. Nous voulons te laisser agir selon ton temps afin que les bénédictions à venir soient des bénédictions totales et non pas des bénédictions qui vont créer encore des problèmes. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles pour ta fidélité et tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.